Chapitre 3. Le meurtrier de mon père ayant été arrêté, fut jugé 2 mois après à la cour d'assises. Je fus forcé, comme témoin, d'assister au jugement. Nouvelle douleur qui recommençait l'ancienne. Ah, madame, si vous saviez dans quels termes les magistrats me parlèrent, comme on me fit entendre en m'interrogeant que j'étais une fille perdue, comme tous les témoins déclarèrent que j'avais une réputation déplorable, comme le procureur du roi me renvoya à ma place d'un air de mépris en relevant la manche de sa robe, comme on rejeta sur moi tous les torts de la querelle, comme l'avocat de celui qui avait tué mon père fit l'éloge de son client, comme il assura que mon pauvre père, le vieux sans souci, était un homme sans mœurs, un vagabond mal famé, que sais-je encore ? Hélas, pauvre père, un si bon ouvrier, si laborieux et si doux, et c'est moi qui lui attirais toutes ces injures. Comme il ajouta que son client avait donné une marque d'intérêt et d'amitié à mon père en lui demandant des nouvelles de sa petite fille. Et comment mon père, qui était toujours, à son dire, ivrogne et furieux, avait répondu par des injures et des coups à cette marque d'amitié. Comme il avait voulu assommer le client, pris en traître, et forcé de se défendre, avait résisté de son mieux. Comment un compas s'était trouvé dans sa poche, comment mon père avait voulu le prendre et l'en frapper, et comment l'autre s'était débattu et mon père s'était enferré, ce qu'on pouvait appeler une justice de la divine providence. Enfin, madame, il parla tant et si bien, il leva si souvent les bras vers le ciel et les fit retomber sur la barre. Il invoqua les présents et les absents, et il dit de si belles choses de son client et de si laides de mon père et de moi, que l'assassin fut acquitté et que le peuple le reconduisit en poussant des cris, en applaudissant à la sentence. Et moi, pour échapper aux coups de pierre et aux huées, j'attendis la nuit. Je traversai la ville en courant et m'enfermai chez moi en grande peur d'être poursuivi. C'est la justice des hommes. Quand je rentrai, ma petite Bernadine me tendit les bras en riant. Je la pris à mon cou, je la serrai de toutes mes forces sur ma poitrine, comme si on avait voulu me l'arracher, et je me sentis consolé. Après tout, grâce à mon travail et au petit jardin que mon père m'avait laissé, je n'avais ni froid ni faim, et je pouvais vivre en paix entre ma famille et Dieu. Combien de malheureux voudraient pouvoir en dire autant ? Cependant, je comptais les jours, les mois et les années qui me séparaient encore de Bernard. Lui seul me restait sur la terre, mais s'il venait à m'abandonner, je me sentais tout à fait découragé, car les réflexions pieuses et la confiance en Dieu pouvaient bien m'adoucir l'amertume de la vie, mais non pas me la rendre précieuse et me la faire aimer. L'amour seul pouvait faire ce miracle. Une chose surtout, quand j'étais seul, m'inquiétait cruellement. Mais pourquoi ne m'écrivait-il pas ? Il est vrai que je ne savais pas l'écriture. C'est un de nos grands malheurs à nous, pauvres ouvrières. Mais la mère Bernard aurait dû me lire ses lettres. Quand je l'interrogeais, elle répondait toujours « Oh, Bernard va bien, il sera sergent un de ses jours. Son capitaine est très content. S'il veut être officier, il le sera, et même colonel. » Colonel ? À vous dire le vrai, madame, je ne sais pas trop ce que c'est qu'un colonel, mais j'ai toujours entendu dire qu'il faut être si riche et si grand seigneur pour emporter les épaulettes, que j'avais peine à croire que Bernard pût être colonel. Et cependant, en y pensant bien, je trouvais que personne n'en pouvait être plus digne. J'ai su depuis que la mère de Bernard ne me disait pas tout. Son fils m'avait écrit, mais en mettant sa lettre dans celle de sa mère, parce qu'il désirait que sa mère me la lût tout haut elle-même, et aussi parce qu'il avait peur que mon pauvre père, le vieux sans souci, dont il ignorait la mort, ne voulût l'intercepter. En quoi il se trompait des deux côtés, car mon père me laissait toute liberté, et la mère de Bernard, qui commençait à se dégoûter de moi à cause de tout le bruit qu'on avait fait, et qui rêvait de voir son fils officier, et qui aurait voulu lui faire épouser la fille d'un notaire, garda soigneusement toutes les lettres, sans m'en dire un seul mot. Enfin, j'étais arrivé à l'âge de 22 ans. Bernard n'avait plus que 2 ans de service à faire, et je commençais à espérer la fin de mes peines, lorsqu'un soir, le contremaître Mathieu, qui n'avait jamais cessé de me faire la courbe que j'avais tenue à distance, s'avisa de me demander un rendez-vous. Il faut vous dire que sa femme était morte depuis 2 mois, et qu'avantageux comme il était, il avait toujours cru qu'il n'y avait que cet obstacle entre nous. Je le priais de me laisser tranquille. « Écoute, dit-il, il faut que tu aies un amoureux caché, car de vivre ainsi seul et d'attendre quelqu'un qui ne viendra jamais, c'est pas naturel. » Je haussai les épaules sans répondre et je rentrai chez moi. Il était à peu près 10 heures du soir. Bernardine était déjà couchée et j'allais me coucher moi-même, lorsque j'entendis qu'on frappait à la vitre 2 coups légers. Je n'eus pas grand-peur d'abord, car il n'y avait rien à prendre chez moi, et la mère de Bernard venait quelquefois chez moi le soir et frappait de la même manière pour se faire entendre. Je me levai donc et j'ouvris la fenêtre sans défiance. « Est-ce vous, mère ?» Pour toute réponse, un homme sauta dans la chambre qui était au rez-de-chaussée et au niveau de la rue. Aussitôt, je poussai un cri. « Tais-toi, dit-il. C'est moi, Mathieu. Ne me reconnais-tu pas ?» Je reculai, moitié de frayeur, moitié de colère. « Mais je ne vous connais pas. Que me voulez-vous ? Sortez ou j'appelle ?» Pas de bruit, Rose. On viendrait, on me trouverait ici, et l'on croirait que tu m'as fait venir. Expliquons-nous tranquillement. Mais je ne veux pas m'expliquer, lui dis-je avec force. Sortez d'ici. Allons, tu fais la méchante, tu as tort. Je t'aime, tu le sais bien. Tu es seul, je suis seul aussi, car mes enfants ne comptent pas. Nous pouvons vivre ensemble. « Va-t'en, Mathieu, ou je crie au feu ?» À ces mots, il saute tout à coup sur moi et veut me fermer la bouche. Mais je me dégage à la faveur de l'obscurité. Je saisis une chaise et la jette dans ses jambes. Il tombe, j'ouvre la porte et je me mets à courir comme une folle dans la rue. Dès qu'il vit que je m'étais échappé, il sortit lui-même et pour éviter d'être rencontré, il descendit à travers les jardins qui vont de ce côté-là jusqu'à la rivière. Quand je vis qu'il était parti, je rentrai moi-même toute tremblante dans la maison, je fermai soigneusement la porte et la fenêtre, je mis un bâton à côté de mon lit pour me défendre si j'étais attaqué la nuit, et je dormis assez tranquillement jusqu'au lendemain. Je ne parlais de cette aventure à personne, et on ne l'aurait pas connu si un voisin, qui par hasard était dans son jardin, n'avait aperçu au clair de lune Mathieu, qui fuyait du côté de la rivière. Il le reconnut sur le champ et n'eut rien de plus pressé que d'en parler le lendemain à tout le quartier. Oh, ce fut une rumeur générale. Si le feu avait pris à 3 maisons à la fois, on n'aurait pas fait plus de bruit. On fit d'abord raconter aux voisins tout ce qu'il avait vu. « À quelle heure ?»« Pas 10 heures. »« C'était Mathieu, l'avez-vous bien reconnu ?»« Parbleu, si je l'ai reconnu. Il a laissé sa casquette dans mon jardin. »« Et d'où venait-il ?»« Oh, pour cela, je n'en sais rien. »« Ben, je le sais, moi, dit une femme. Il venait de chez Rose d'Amour. » À ce nom, tout le monde se mit à crier. « Oh, voilà une gaillarde, une effrontée, mais rien ne pourra donc la corriger. Comment elle va débaucher les pères de famille, maintenant ?» Faites attention à ce que je vous dis, ajouta une de mes camarades d'atelier. Il y aura encore quelqu'un de tué pour cette malheureuse. C'est pas étonnant, dit une vieille femme. Les hommes n'aiment que ces créatures-là. Et cette fois encore, on rejeta sur moi tous les torts. C'était moi qui avais encouragé Mathieu. Du vivant de sa femme, je l'avais reçu chez moi tous les soirs. Quelqu'un dit qu'il l'avait vu sortir de ma maison à 3 heures du matin. On plaignit la pauvre défunte. On assura qu'elle était morte de chagrin de voir la mauvaise conduite de son mari. Enfin, tout ce qu'on avait dit contre moi depuis le départ de Bernard se réveilla de nouveau, et cette fois, je n'avais plus d'appui nulle part. Mon père était mort, mon pauvre père, le seul être qui m'eût protégé. Et il faut vous dire que j'avais encore, sans le savoir, un nouveau sujet de tristesse. Quand je vis que Bernard ne m'écrivait pas et que sa mère ne me parlait plus de lui que rarement, de loin en loin, j'avais résolu d'apprendre à lire et à écrire, et d'écrire mes lettres moi-même, car, excepté le catéchisme qu'on m'avait fait apprendre pour la première communion, je ne savais absolument rien de ce qu'on enseigne dans les écoles. Mais en même temps, j'étais fort embarrassé d'apprendre, car d'abord, madame, je n'avais pas la tête bien organisée pour les livres. Cela vient un peu de naissance, comme vous savez, et mon père, mes sœurs et moi, nous avions la tête si dure qu'il avait fallu renoncer à nous apprendre à lire. Cependant, comme je veux fermement ce que je veux, je m'en allais trouver un pauvre garçon qu'on appelait Jean-Paul, qui était sans famille, sans parents connus, et sorti, je crois, de l'hospice de Lyon. Ce pauvre Jean-Paul, qui était boiteux et marqué de la petite vérole, mais doux comme un mouton et aimé de tout le monde à cause de sa bonté, faisait le soir, après souper, une école de lecture et d'écriture à 7 ou 8 filles de mon âge, qui n'avaient pas appris à lire mieux que moi et qui en sentaient trop tard la nécessité. Comme il était garçon tailleur et vivait de son aiguille, sans être riche, il faisait son école gratis et ne se faisait pas prier pour écrire les lettres de son quartier. J'allais lui demander de me recevoir parmi ses élèves. Le pauvre garçon me regarda en souriant, suivant sa manière, et me dit « Oh, tu es bien grande, Rose d'amour, pour apprendre l'écriture à ton âge. Est-ce que tu veux écrire à ton colonel ?» Oui, justement, c'est à mon colonel, au colonel Bernard. Oui. Eh bien, viens quand tu voudras. J'allais le soir même, et je commençais à travailler si durement, avec tant d'application, à faire des barres, des A, des O, des I, des U, des majuscules, des minuscules, de la ronde, de l'anglaise, de la bâtarde et de la coulée, que j'en étais bien souvent plus fatigué que de bêcher la terre, tant la plume est un outil pesant pour celui qui n'en a pas l'habitude. Enfin, je commençais à écrire des lettres grandes d'un pouce, puis d'un demi-pouce, d'un quart de pouce, et finalement de grandeur naturelle, et quoique je n'aie jamais été grande écrivassière, je puis maintenant me faire lire et lire les autres. Pendant ce temps-là, Jean-Paul pensait à tout autre chose. Un soir, comme je m'en allais après la leçon, il me retint par le bras et me fit signe qu'il avait quelque secret à me dire. Moi, oh, toujours simple, bien éloigné de croire qu'on puisse s'occuper de moi, je restais, je m'assis. Jean-Paul ferma la porte et s'assit en face de moi. « Rose d'amour, la bien-aimée, dit-il, comment me trouves-tu ? » Je crus qu'il voulait rire. « Oh, très joli garçon, lui dis-je. » Il secoua la tête. « Non, non, ce n'est pas cela que je te demande, Rose. Parle-moi sérieusement et regarde-moi bien. Écoute, j'ai 26 ans, 100 francs d'économie et le mobilier que voilà. Je t'aime à la folie, veux-tu m'aimer? Mais est-ce que tu vas m'insulter, Jean-Paul? Lui dis-je d'un air triste. Oh, je me sentais venir les larmes aux yeux. T'insulter, moi? Rose d'amour, moi, t'insulter, mais as-tu pu le croire? Je te demande si tu veux te marier avec moi. Je lui tendis la main. Il la baisa et la serra dans les siennes. Eh bien, tu acceptes, dit-il. En ce cas, la noce se fera dans 15 jours. Non, elle ne se fera pas, tu ne m'as pas comprise, mon bon Jean-Paul. Elle ne se fera jamais. Ah oui, je sais, tu aimes Bernard. Mais pense-t-il encore à toi et reviendra-t-il jamais? Qu'il revienne ou non, je l'aime et j'ai promis de l'attendre. Non, tu ne l'aimes pas, s'écria-t-il. Écoute-moi, Rose, je sais ce qui t'arrête. C'est ta fille. Eh bien, je la reconnaîtrai. On se moquera de moi, mais je me moquerai des autres à mon tour. Je t'aime et je serai heureux. Je n'ai pas de parents, pas de famille. Je suis un enfant trouvé. Je ne dois compte de rien à personne et je t'aime. Ne me dis pas que tu ne m'aimes pas aujourd'hui, je le sais, et je te le pardonne, mais tu m'aimeras un jour. Tu es si bonne, car je te vois depuis 5 ans, Rose, et je n'ai pas cru un seul mot de ce qu'on m'a dit de toi. Je ne le croirais pas quand je te l'aurais vu de mes yeux. Tu es seule, sans amis, sans fortune, sans mari, sans amant. Je suis seule comme toi, et personne ne m'aime. Appuyons-nous l'un sur l'autre, aimons-nous et marions-nous. Bon, je ne serai pas jaloux de Bernard. Je te prends tel que tu es, et je t'aime mieux qu'aucune créature, car tu es la meilleure fille du quartier. Et quoi qu'on t'ait bien fait du mal, tu n'as jamais cherché à te venger. Et la vengeance aurait été pourtant bien facile. Moi, ce qu'il me faut, c'est une bonne femme, douce et laborieuse et soigneuse. Et je sais que tu le seras, car tu l'es déjà. Dis un mot, Rose, et tu feras mon bonheur, et peut-être le tien. Je ne puis vous dire, madame, combien je fus touché des paroles de ce pauvre garçon. Je sentais bien qu'il disait vrai, et qu'il m'aimait tendrement. Mais moi, je ne l'aimais pas, et surtout, j'avais dans le cœur un trop tendre souvenir de Bernard. Comme il vit que je ne répondais rien, il me crut ébranlé et voulut continuer. Ses yeux bleus, oh, qui étaient pleins de douceur, m'imploraient encore mieux que ses discours. Mais d'un mot, je lui fermai la bouche. Adieu, Jean-Paul. Oh, je te remercie, et tu seras toujours pour moi un ami, le meilleur et le plus sûr après Bernard. Mais ce mariage est impossible, et je ne remettrai plus les pieds dans cette maison. Et tu ne me permettras pas d'aller te voir? Non, car tu ne pourrais pas t'empêcher de me parler de ce que je ne veux plus entendre. Devant Dieu, je suis la femme de Bernard, et je ne dois entendre de personne un mot d'amour. À ces mots, je sortis et refermai la porte. Il n'essaya pas de me retenir, tant il était consterné. Quand on connut l'aventure de Mathieu, le père et la mère Bernard, qui avaient été jusqu'alors assez bien disposés pour moi, ne purent pas s'empêcher de croire qu'il fallait que j'eusse fait de grandes avances à ce misérable pour qu'il osât entrer chez moi par la fenêtre à 10 heures du soir. Quand chacun eut dit son mot et raconté son histoire, le père Bernard hocha la tête et dit à sa femme « Bon, Rose d'amour ne sera pas notre fille. » Oh, c'est une dévergondée, dit la mère. On m'assurait encore ce matin qu'elle recevait 3 ou 4 jeunes gens toutes les nuits, et de plus, monsieur l'adjoint au maire. Qu'elle reçoive qui elle voudra, dit le père, j'empêcherai bien Bernard de l'épouser. Mais moi aussi, dit la mère. Mais qui aurait cru cela de cette petite fille que nous avons tenue sur nos genoux, qui était si sage et si douce, étant enfant? Oh, il faut que Dieu l'ait abandonné. Le lendemain, sans perdre de temps, la mère Bernard vint chez moi pour m'annoncer cette nouvelle. Quoique je connusse déjà par mes camarades d'atelier tous les bruits qui avaient couru, oh, j'étais loin de m'attendre à ce dernier coup. Je ne vous raconterai pas son discours. Je ne l'entendis pas tout entier. Au premier mot, je compris tout, et je reçus comme un coup de massue sur la tête. « Ah, mère, lui dis-je, est-ce vous qui devriez me dire une chose pareille ?» Et je me mis à fondre en larmes. « Écoute, mon enfant, répondit-elle, mets-toi à ma place. Tu ne penses qu'à toi. Moi, je pense à mon Bernard, et je ne serais pas bien aise qu'il fût le mari d'une coureuse. Je veux croire que tu n'as rien fait de mal, et que tu m'as tiré chez toi ce Mathieu et tous les autres que pour chanter les psaumes avec eux et dire les litanies de la Sainte Vierge, mais j'ai attiré Mathieu, moi. Ma foi, je répète ce qui se dit. Ils sont là plus de 30 qui ont vu des gens entrer chez toi à toutes les heures de la nuit ou en sortir. Il faut bien croire de pareils témoins. Et après tout... C'est bien, lui dis-je en me levant, car je me sentais indigné. Vous pouvez dire à Bernard ce qu'il vous plaira, mais vous êtes chez moi. C'est bon, s'en va. Ne vas-tu pas faire la princesse parce que tu t'es mise dans ton tort? Te dis pas au revoir, ma petite. Je la laissais partir et ne cherchais pas à la retenir. Puis je repris ma vie accoutumée et je retournai à l'atelier malgré les cris d'indignation des voisins qui disait que je m'entendais avec Mathieu. Le méchant homme lui-même le laissait croire, et en mon absence disait d'un air fin, oh, « Rose d'amour et moi, nous ne sommes pas aussi brouillés qu'elle veut le faire croire. Si vous me demandez pourquoi je n'ai pas quitté son atelier, je vous dirai, madame, que je craignais de ne pas trouver d'ouvrage dans un autre. Les mauvais bruits qui couraient m'auraient suivi partout. J'aurais été persécuté ailleurs tout autant et peut-être davantage. Et d'ailleurs, je vous avoue que grâce à mes lectures, car depuis que Jean-Paul m'avait enseigné à lire, je lisais souvent l'Évangile et l'Imitation de Jésus-Christ et j'en tirais des consolations infinies. Grâce à mes lectures, je devenais à peu près indifférente à tout ce qu'on disait de moi. Toujours frappé au même endroit et par tous, je sentais ma blessure se cicatriser et je commençais à vivre dans un monde bien supérieur à tous les autres, dans le monde où les corps ont disparu et où il ne reste plus que de purs esprits. Là, du moins, je me sentais libre. Enfin, j'appris de mes camarades que Bernard allait revenir. On disait qu'il était sergent, qu'il allait obtenir un emploi dans les droits réunis, qu'il allait vivre comme un bourgeois, et sa mère parlait même de lui acheter une charge d'huissier. À cette nouvelle, je sentis mon cœur battre plus vite et plus joyeusement, et je crus que mes peines touchaient à leur fin. Imaginez, madame, un enfer qui a duré 7 ans avec la promesse du paradis. Voilà ce que je pensais tout de suite en apprenant ce retour. Du reste, j'en eus bientôt des preuves certaines. La mère de Bernard commença à parcourir le quartier en racontant les campagnes de son fils, tous ses grades depuis celui de caporal jusqu'à celui de sergent, tous les Arabes qu'il avait tués, tous les bois de myrte et de laurier rose où il avait chassé le lion, le tigre, la panthère, le léopard, la perdrix, le lièvre et tous les autres animaux féroces. Elle fit blanchir sa maison du haut en bas. Quoique la maison qui était neuve, comme vous le savez, n'en avait guère besoin. Elle acheta des cravates, des mouchoirs, des chemises, 12 paires de bas. Elle parlait même d'aller au-devant de lui jusqu'à Paris et, à ce qu'on disait, de le faire revenir en poste comme un prince. Toute la rue était en rumeur à cause de cet événement. Pour moi, qui attendais Bernard avec plus d'impatience qu'elle, car je lui avais écrit depuis 2 ans une douzaine de lettres auxquelles il n'avait jamais répondu. Je me tenais plus renfermé que jamais dans mon atelier, et au sortir de l'atelier, dans ma chambre. J'étais certaine, quelque mal qu'on pût lui dire de moi, qu'il n'en croirait pas un mot, tant j'avais confiance en lui, et j'étais sûre que sa première visite et sa première parole seraient pour moi. Enfin, j'appris un matin, dans mon atelier, que Bernard devait arriver le soir par la diligence. Le père Bernard devait aller l'attendre avec tous ses amis, et la mère faisait préparer un grand souper dont la fumée, nous étions voisins, pourrait se faire sentir jusque chez moi. Rien n'était plus naturel que toute cette joie, ce festin et ces apprêts. Eh bien, madame, il me semblait entendre parler de mon enterrement. À mesure que l'heure approchait, je me sentais prête à me trouver mal et je fus forcée de sortir de l'atelier et de rentrer chez moi. Je venais à peine de fermer ma porte et de m'asseoir près de la fenêtre qui donnait sur la campagne, lorsque j'entendis les grelots des chevaux et le roulement de la diligence au fond de la vallée. En même temps, je vis les amis de Bernard et son père arrêter la diligence, le faire descendre et l'emmener bras dessous après l'avoir embrassé. « À quoi pense-t-il maintenant ?» me disais-je. « M'a-t-il oublié ? Je le saurai en le voyant entrer. Son premier regard, sa première parole doivent être pour moi. » J'avais mis ma plus belle robe et mon plus beau bonnet. J'avais habillé Bernardine comme une petite poupée et je la retenais à grand-peine à côté de moi pour qu'elle fût tout à fait belle quand son père la verrait pour la première fois. Je me demandais aussi s'il fallait attendre Bernard ou bien si je ne ferais pas mieux de descendre dans la rue et de me jeter dans ses bras dès qu'il aurait paru. Cependant, un reste de défiance me retint et j'attendis de pied ferme, mais non sans maudire la lenteur des minutes. Il parut enfin au coin de la rue. Je le voyais caché derrière le rideau de ma fenêtre. Il était plus fort, plus hardi, mieux découplé, mieux pris dans sa taille, plus beau aussi. Mais c'était bien Bernard. Il avait penché son képi sur l'oreille, ce qui lui donnait l'air guerrier. Sa moustache était fine et longue. C'était un bel homme, un joli garçon, dont toute femme eût été fière. Il passa devant ma maison sans lever les yeux. J'étais là, prête à crier, à m'élancer. Je laissai retomber le rideau. J'étais presque folle de douleur, pas un regard. Ses amis étaient avec lui. Peut-être n'osait-il pas les quitter et entrer chez moi, mais pas un regard. Il ne m'aimait plus. Ainsi, pendant 7 ans, j'avais souffert mort et passion à cause de lui. Mon père était mort. J'avais été déshonoré. Je vivais seule, malheureuse, méprisée, abandonnée de tous. Une seule chose me soutenait, son amour, et il ne m'aimait plus. Le tonnerre serait tombé sur ma tête sans me faire plus de mal. J'ôtais mon bonnet, je le jetais à terre, je pleurais de colère et de désespoir. Bernardine, étonnée, se jetait à mon cou et cherchait à me consoler. « Mais tu m'avais promis de me faire voir papa, où est-il donc papa ?»« Il est parti, mon enfant, il ne reviendra plus. » Quand la nuit fut venue et l'enfant couché, j'allais m'asseoir dans mon jardin, qui était voisin de celui de Bernard, sous un berceau que mon père avait fait lui-même, et j'entendis de là le bruit du souper, le choc des verres, les cris de joie des amis, et le vieux Bernard qui buvait à la santé de son fils, de sa femme, de l'armée française, du roi des Français, de la garde nationale et du sultan Abdelkader. J'entendis aussi la voix de Bernard. Mais il me parut moins gai qu'on s'y attendait. Et quelqu'un en fit la remarque. Oh, je suis un peu fatigué, dit-il. J'ai fait 100 lieues sans dormir. Oui, tu veux dormir ce soir, dit le père. C'est trop juste. Eh bien, va te coucher, mon garçon. Et nous, amis, buvons. Bernard monta dans sa chambre et au lieu de se coucher, s'assit auprès de la fenêtre. Il appuyait son menton sur sa main. Je voyais parfaitement, quoiqu'il ne me vît pas, car son visage était éclairé par la lune et j'étais dans l'ombre sous le berceau. Après être resté plus d'une heure dans cette position, il poussa un long soupir, ferma la fenêtre et se coucha. Quelques moments après, ses amis sortirent de la maison et j'entendis le vieux Bernard qui chantonnait un air à boire. « Que mon nuit, c'est la folie, veille toujours sur notre vie, etc. » Alors, toute brisée par le désespoir, j'allais me coucher à mon tour. Voilà comment se passa ce jour dont j'avais attendu tant de bonheur. Le lendemain fut pareil. Bernard passa et repassa devant ma maison sans même lever les yeux sur ma fenêtre. Oh, sa mère avait dû lui raconter de moi de terribles histoires. Je ne puis vous dire, madame, combien j'étais indigné. Quelque chose qu'on m'eût dit de lui, de quelque crime qu'on l'eût accusé, je n'en aurais rien cru. Et lui, sur un simple récit, me croyait coupable et me condamnait sans m'entendre. Que dis-je ? Il me condamnait. Il poussait si loin le mépris qu'il ne daignait pas s'informer de moi, ni douter un seul instant. Et tous ces bruits infâmes qui avaient couru sur moi, lui seul en était cause. Quand le monde entier m'aurait condamné, lui seul aurait dû m'absoudre. Et pendant que je vivais dans la solitude et le désespoir, il fêtait ses amis. Il était enfêté par eux et il riait peut-être quand on lui parlait de moi. Cette pensée devint si continuelle et si désespérante que je crus retrouver un moment la force d'oublier Bernard et de me faire à moi seul une vie, puisque je ne pouvais plus être marié à celui pour qui j'avais tout sacrifié. Je continuai d'aller à l'atelier en ayant soin d'éviter les rues et les heures où je pouvais craindre la rencontre de Bernard. Je ne voulais pas qu'il me crût assez peu fier pour le rechercher et me justifier près de lui. Il ne me fut pas du reste très difficile de l'éviter, car il prenait de son côté le même soin, et quoique les deux maisons fussent très proches, voisines l'une de l'autre, et que les deux jardins fussent très petits, et séparés seulement l'un de l'autre par un mur à hauteur d'appui, nous vécûmes pendant 3 semaines, côte à côte, sans nous voir et sans échanger une parole. Une seule fois, je le vis paraître à l'entrée de la rue au moment où je sortais moi-même. Aussitôt, je me sentis pâlir si fortement que la force me manqua. Je rentrai chez moi sans le regarder. Ne croyez pas, madame, qu'il y eût là quelque sentiment de honte, non. Je me sentais forte devant lui. Tout le monde pouvait me reprocher d'avoir failli. Lui seul ne le pouvait pas, car je n'avais failli que pour lui. Cependant, on commençait à s'étonner de sa conduite. Les histoires d'amour, c'est comme les assassinats. Tout le monde aime à en parler, et surtout les femmes. Mes camarades d'atelier s'aperçurent bien vite que Bernard ne pensait plus à moi. On nous surveilla, on vit bien que, ni publiquement ni secrètement, nous n'avions ensemble aucune intelligence. On lui en parla, et voici comment, car j'ai su plus tard toute l'affaire. Un jour, une fille assez coquette du quartier, qui avait, je crois, quelque envie d'épouser Bernard, causait avec lui. « Oh, vous, dit-elle, on ne peut pas se fier à vous. »« Pourquoi ?» demanda Bernard. « Ben, n'avez-vous pas trompé cette pauvre rose d'amour ? Bernard devint sombre tout à coup. Oh, ne parlons pas de cela, dit-il. C'est elle qui m'a niment trompé, et pour qui? Pour ce Mathieu, un misérable, pour Jean-Paul, un enfant trouvé, et qui sait encore pour combien d'autres. Ah, la malheureuse! Elle m'a bien fait souffrir. Il faut vous dire qu'en effet, le pauvre Jean-Paul, après que je lui refusai, ne se tint pas pour battu et raconta son amour à tous les voisins. Et quoi qu'il eût dit très honnêtement et très franchement toute la vérité, les autres filles qui se trouvaient blessées de la préférence qu'il me donnait avaient raconté l'histoire tout autrement que lui, disant qu'il en agissait ainsi par ruse et pour mieux cacher son jeu. La conversation de Bernard et de cette fille me fut bientôt répétée par une de mes camarades d'atelier, car on se faisait un plaisir de me tourmenter, parce que je ne voulais jamais rendre le mal pour le mal, ayant toujours à l'esprit cette parole de Jésus-Christ que je lisais tous les soirs dans l'Évangile, « Aimez-vous les uns les autres ». Ces paroles de Bernard me rejetèrent de nouveau dans une douleur dont vous ne pouvez pas avoir idée. Perdre ses amis, ses parents, son mari, c'est le plus grand malheur du monde. Mais se sentir méprisé de celui qu'on aime le plus, n'est-ce pas le comble de toutes les calamités? Alors, je commençais à désespérer de tout et à me dégoûter de la vie. Les livres saints eux-mêmes que je lisais si souvent n'avaient plus de consolation pour moi. Oui, puisqu'on me traite comme une malheureuse femme odieuse à tous et méprisée de tous, pensais-je, c'est que Dieu ne veut pas que je vive plus longtemps, c'est que je n'ai plus rien à faire ici-bas. Hélas, madame, je ne me justifie pas, je vous raconte toutes mes pensées. Cependant, au moment de mourir, j'étais retenu par la crainte de laisser Bernardine seule sur la terre et exposée peut-être au même malheur que sa mère. Eh bien, me dis-je, je vais la lui léguer en mourant. S'il ne m'aime plus, du moins, il aimera sa fille. Un soir, donc, je mis le lit de Bernardine dans la chambre qui était à côté de la mienne, je fermai soigneusement la porte, et j'écrivis à Bernard une lettre que voici. Bernard, tu m'as perdu, tu m'as abandonné, je te pardonne, je meurs. Prends soin de ta fille. À ce dernier moment où je vais paraître devant Dieu, je le jure, je n'ai jamais aimé que toi. Tu élèveras Bernardine et tu lui parleras quelquefois de sa mère, n'est-ce pas? Adieu. En même temps, je m'habillai de ma plus belle robe. J'allumai au milieu de la chambre le feu que j'avais mis dans un réchaud et je me couchai sur mon lit, en laissant sur la table une lampe allumée. Mais avant de vous dire ce qui suivit, il faut que vous sachiez que les paroles de Bernard n'avaient pas été rapportées à moi seul. Elles arrivèrent aussi jusqu'aux oreilles de mon pauvre ami Jean-Paul. Comme c'était un très honnête garçon, tout rempli de délicatesse, il ne voulut pas souffrir qu'on m'accusât faussement d'une faute qu'il savait fort bien que je n'avais pas commise, et il voulut m'en justifier lui-même. Il alla donc trouver Bernard. C'était après la journée terminée, et Bernard, fatigué de son travail, mécontent de moi, de tout le monde et peut-être de lui-même, le reçut fort mal. Mais Jean-Paul ne se rebuta point. « Tes grands airs ne m'imposent pas, dit-il à Bernard. Je suis bon, tout comme un autre, pour te prêter le collet, et il faut que tu m'écoutes. Parle donc, puisque tu veux parler. » « Oui, je veux parler et dire la vérité, et peut-être suis-je le seul qui puisse ou qui veuille la dire sur rose d'amour. » « Oh, oh !» dit Bernard, que ce ton-là et la sincérité connue de Jean-Paul engagèrent à l'écouter plus attentivement. « Oui, on t'a menti. Si on t'a dit que Rose d'amour m'avait aimé, ben, sais-tu que c'est ma mère qui me l'a dit? Eh bien, sauf ton respect, la mère Bernard a menti comme tous les autres. Il y a ici une ligue contre cette pauvre Rose d'amour, et j'en sais bien la raison. C'est qu'elle a plus d'esprit, de bonté et de raison dans son petit doigt que toutes celles qui font tant les dédaigneuses et n'en ont dans toute leur personne. Eh bien, pour preuve, si tu renonces, je l'épouse. Toi ? Dit Bernard étonné. Oui, moi, Jean-Paul, dit la paire de ciseaux. Et si elle l'avait voulu il y a 2 ans, ce serait déjà fait. Mais elle t'attendait, la pauvre créature. Et voilà comment tu la récompenses. Mais, dit Bernard, toujours défiant, quel intérêt as-tu à me la faire épouser ? Pauvre Bernard, mais tu es bien de la race de ceux qui disent toujours. Voilà un honnête homme, quel intérêt a-t-il à être honnête ? Eh bien oui, puisque tu veux le savoir. Oui, j'ai un intérêt. C'est que si tu l'abandonnes positivement, peut-être voudra-t-elle de moi. Et ma foi, oh, je ne ferai pas le difficile. Je la prendrai dès demain, si elle veut, et même je t'inviterai à la noce. Et qui t'empêche de commencer par là ? Ah, mais c'est que je veux qu'elle ne doute pas que tu l'abandonnes. Cela pourra la décider en ma faveur. Et pour preuve de cet abandon, je veux que tu sois mon garçon d'honneur et que tu ailles lui faire ma demande en mariage. Mais tu es fou ! Je ne suis pas fou du tout. Je suis très sensé. Je la connais depuis 7 ans. Je l'ai toujours vue aimable, douce, gaie, fidèle à son devoir et à toi. C'est une femme comme celle-là qu'il me faut. Me moque du passé. Ne suis-je pas moi-même un enfant trouvé ? Et si mon cœur est content, ai-je besoin de prendre l'avis du voisin ? Mais enfin, dit Bernard, qui doutait toujours, tu la prends, quoiqu'elle ait été ma maîtresse. Ne pourrais-tu pas la prendre aussi, quoiqu'elle eût appartenu à Mathieu comme à moi ? Ha ! Tu crois cela, imbécile ? Mathieu s'est vanté comme un fanfaron qu'il est, et jamais il n'a baisé le bas de sa robe. D'ailleurs, si tu ne l'aimes plus, que t'importe Mathieu et tout l'univers ? Mais tu voulais me la faire épouser tout à l'heure. Moi, oh, non, jamais je ne t'en ai parlé. Je pense que c'est ton devoir, parce qu'elle t'aime, et parce qu'elle a une fille de toi. Mais je crois aussi que tu la rendras très malheureuse, car tu es orgueilleux, égoïste. Tu crois que le soleil et la lune tournent autour de toi. Et tu tournes toi-même à tout vent comme une girouette. Le premier venu te fait voir des étoiles en plein midi. Quand tu es venu ici, on t'a fait croire tout ce qu'on a voulu. Tu as tout avalé parce que tu es sans réflexion. Et tu as rejeté cette pauvre rose parce que tu es plein de vanité. Et si vous vous mariez et qu'une méchante langue te parle encore d'elle, tu es si fou que tu croiras tout. Tu te mettras en colère, tu la battras ou tu la tueras, et dans tous les cas, tu la rendras éternellement malheureuse. Moi, au contraire, je l'aimerai toute ma vie, et elle m'aimera aussi, je le sais, non pas d'amour, car on n'aime pas deux fois, mais de bonne et tendre amitié. Et je serai son mari, je serai toutes ses pensées, et je l'aimerai et l'honorerai éternellement, et je la protégerai contre tous. Et j'ôterai pour elle les cailloux du chemin où elle s'est blessée si souvent, la pauvre fille. Et s'il faut... Écoute, interrompit Bernard, tu es un honnête homme, je le sais, et tu ne voudrais pas me tromper. Jure qu'elle ne t'a jamais aimé. Je le jure. Et jure aussi qu'elle n'a jamais aimé Mathieu. « Mais je jure que je le crois, dit Jean-Paul. Mais si tu veux savoir la vérité, interroge-le lui-même. J'irai volontiers chez lui avec toi, et je serai votre témoin. »« Eh bien, allons, dit Bernard. Oh, si tu avais dit la vérité, quel remords pour moi !» Mathieu était chez lui et fronça le sourcil en les voyant entrer. Il se douta bien à leur mine que Jean-Paul et Bernard venait chercher une explication sérieuse. Que me voulez-vous? Demanda-t-il. Ben, te parler en particulier, dit Bernard. Fais sortir tes enfants. Bon, sortons nous-mêmes, dit Mathieu. Et comme s'il eût craint quelque attaque, il prit dans un coin un fort bâton de houx. À cette vue, Bernard, qui comprit sa pensée, en prit un autre de force et de longueur égale. Jean-Paul resta seul, sans armes. « Viens sur la route, un peu loin des maisons, » dit Bernard. « Il ne faut pas que personne, excepté Jean-Paul, que voilà, entende la question que je vais te faire, ni ta réponse. » Mathieu y consentit, et ils marchèrent en silence jusqu'auprès d'un petit bois qui n'était pas fort éloigné. « C'est là, » dit Bernard, « arrêtons-nous. » « On dit, Mathieu, que tu t'es vanté d'avoir eu des bonnes grâces de rose d'amour. » « Je m'en suis pas vanté, » répondit Mathieu. « Eh bien, on l'a dit, et tu n'as pas dit le contraire. Bon, c'est pas à moi de faire taire les langues. Voyons, » dit Bernard, qui commençait à s'échauffer. « As-tu été aimé d'elle, oui ou non ?»« Et de quel droit fais-tu cette question ?» demanda Mathieu avec un grand sang-froid. Je devais l'épouser et j'ai d'elle une fille. J'ai le droit de savoir si celle que je veux épouser est digne de moi. Et quelle preuve as-tu que je vais dire la vérité? Va, laisse parler les femmes. Épouse Rose si cela te fait plaisir et ne l'épouse pas si cela t'ennuie. Mais va pas t'inquiéter et te tourmenter la cervelle pour savoir ce qu'elle a fait en ton absence. Ainsi, tu refuses de répondre. Ben, je refuse. Défends-toi, car je vais te briser le crâne. Fou ! Dit l'autre, qu'est-ce que tu cela prouvera ? Mais si tu veux, je suis prêt. Allez, en garde ! Ils se battirent à coups de bâton pendant un bon quart d'heure, éclairés seulement par la lune. Jean-Paul était témoin. Enfin, Mathieu reçut un dernier coup sur la tête, si violent qu'il en demeura tout étourdi. Il s'assit dans le fossé qui bordait la route et se lava la figure qui était couverte de sang. De son côté, Bernard se lavait aussi les mains dans l'eau du fossé. « Maintenant, dit Mathieu, la bataille est finie, du moins pour ce soir, quand je ne puis plus me soutenir, et il faudra me ramener chez moi. Je vais répondre franchement à ta question. » Oui, j'ai voulu plaire à Rose d'amour. Oui, je suis allé chez elle un soir sans sa permission. Ah, misérable, s'écria Bernard, tu l'avoues donc? Pour moi, oui, mais pour elle, non. Elle courut dans la rue en me voyant, et comme j'ai cru qu'elle allait appeler les voisins, je me mis à courir à travers les jardins. C'est ce jour-là qu'on me vit et qu'on fit toutes les histoires que ta mère t'a raconté. Et pourquoi n'as-tu pas parlé plus tôt ? Dit Bernard. Ben, pour te donner confiance. Si j'avais parlé avant de me battre, tu aurais cru que je niais pour éviter la bataille. D'ailleurs, entre nous, j'étais un peu jaloux de toi. J'espérais bien te frotter les épaules. Le bon Dieu a voulu que les miennes fussent frottées et non les tiennes. Quand Bernard entendit ces paroles, il fut saisi d'une telle joie qu'il voulut courir sur le champ vers la ville pour se réconcilier avec moi. Mais Jean-Paul le rappela. « Hé !» dit-il, « donne-moi donc un coup de main pour transporter Mathieu, qui va passer la nuit dans ce fossé si tu ne m'aides. »« Il crève s'il veut, » dit Bernard, « il l'a bien mérité. » Cependant, il vint au secours de son camarade et amena Mathieu, qui était d'ailleurs plus meurtri de coups que grièvement blessé. Dès qu'il fut dans son lit, Bernard le quitta pour venir se réconcilier avec moi. Bernard courait si vite que l'autre avait peine à le suivre. Il était 10 heures du soir et tout le quartier dormait déjà. Ils virent ma lampe allumée à travers les vitres et frappèrent. Le charbon était à peine allumé depuis une demi-heure, et déjà la fumée se répandait dans l'appartement. Je me sentais défaillir et ne répondis pas à l'appel qu'on me faisait du dehors. Rose d'amour, c'est moi, criait Bernard. Je reconnus cette voix, et je crus rêver ou entrer déjà dans la mort. Cependant, les cris continuaient, et comme je ne répondais pas, Bernard frappa si violemment la fenêtre qu'elle s'ouvrit à demi brisée, et il entra en sautant dans la chambre avec Jean-Paul. L'air frais entra avec eux et commença à me ranimer. Oh, la malheureuse, dit Jean-Paul, elle a voulu s'asphyxier. Et il ouvrit la porte aussitôt. À ces mots, Bernard s'élança vers mon lit et m'embrassa sans que j'eusse le temps de me reconnaître. Rose, chère Rose, c'est moi qui t'aime et qui te demande pardon à genoux. Je ne vous répéterai pas, madame, tout ce qu'il me dit dans ce premier instant. Je l'entendais moi-même à peine, tant j'étais étonnée, joyeuse et troublée de ce changement. Avoir touché la mort de si près et rentré tout à coup dans la vie, dans la joie, dans le bonheur. M'aimes-tu, me pardonnes-tu? Demandait mille fois Bernard. Pour toute réponse, je me laissais aller dans ses bras. À cette vue, Jean-Paul, que je n'avais pas encore aperçu, détourna la tête et sortit brusquement. Si généreux qu'il fût, notre bonheur lui faisait mal. Bernard passa la moitié de la nuit à me raconter tout ce qu'il avait souffert à cause de moi, toutes les vilaines histoires qu'on lui avait écrites au régiment, et quand je voulus me plaindre de sa crédulité, il me ferma la bouche d'un baiser. De mon côté, je lui racontai tous mes malheurs, et comment la seule espérance de le revoir m'avait soutenu pendant ces 7 années d'infortune. Va, va, dit-il, plus rien ne nous séparera. Dans 15 jours, nous serons mariés. Mais quand je lui montrai notre petite Bernardine, qui dormait et n'avait rien su des événements de la nuit, il s'écria qu'elle était plus belle que tout ce qu'il avait vu sur la terre, moi seul excepté. Et il me jura si passionnément de m'aimer toujours que je vis bien qu'il disait vrai et que je serais heureuse dorénavant pour le passé et pour l'avenir. 12 jours après, nous fûmes mariés. La veille, Jean-Paul vint me dire adieu. Vous ne restez pas pour la noce, lui dis-je. Non, Rose, je vous remercie. Vous êtes heureuse et par moi, j'en remercie le ciel. Mais je ne puis m'accoutumer à vous voir au bras d'un autre. Je pars ce soir pour l'Amérique, là je verrai du nouveau, et je vous oublierai peut-être. Adieu. Fin.